à cette époque, ses frères l'appelaient la grande sauterelle, car elle était longue et mince et très vive. Elle grimpait aux arbres et sautait sans cesse à la corde. Ce n'est que plus tard, dans sa relation avec le seigneur de sa vie, qui a guéri ses blessures passées et rassemblé les pièces du puzzle, qu'elle a pu s'identifier à son prénom. C'est ce que nous révèle la personne qui a écrit cette réflexion. Une femme dans le Nouveau Testament a reçu de Jésus lui-même la confirmation qu'elle était bien une personne qu'il connaissait par son nom. Et toi, que te dit ton prénom? Est-ce qu'il te dit qui tu es? Écoutons Clin d'œil de vie, une réflexion de Simone inspirée de la Bible et de ses expériences personnelles.
En 1940, mon père étant prisonnier en Allemagne, c'est mon grand-père qui, avec son cheval et sa calèche, est allé déclarer ma naissance à la mairie de la commune dont dépendait notre ferme. Au moment de dire le prénom choisi, il ne se rappelait plus si c'était Sidonie, le prénom de ma tante, ou Simone, le prénom de ma marraine, qu'il devait déclarer. Lorsque ma mère me raconta cela, alors que j'étais adolescente, quelque chose m'a frappée. Ma mère n'avait pas choisi un prénom pour moi, elle empruntait celui de ma marraine. Et cela avait-il une relation? Mon prénom ne m'était pas familier, comme si je n'y étais pas attachée, comme s'il ne me disait rien. À cette époque, mes frères m'appelaient la grande sauterelle. J'étais longue et mince et très vive, je grimpais aux arbres et sautais sans cesse à la corde. Ce n'est que plus tard, dans ma relation avec le Seigneur de ma vie, qui a guéri mes blessures passées et rassemblé les pièces du puzzle, que j'ai pu m'identifier à mon prénom. Une femme, dans le Nouveau Testament, a reçu de Jésus lui-même la confirmation qu'elle était bien une personne qu'il connaissait par son nom. Ce dimanche matin, le troisième jour après la mort de Jésus à la croix et sa mise au tombeau, les femmes, au lever du soleil, viennent avec les aromates et les parfums pour embaumer le corps de leur maître. Elles sont habitées par le chagrin et l'inquiétude de ne pouvoir rouler la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Or, la pierre est roulée et le tombeau vide. Un ange leur dit que Jésus s'est réveillé et qu'elles doivent aller dire aux disciples de le rejoindre en Galilée, selon ce qu'il leur avait annoncé avant sa mort. Ceux-ci pensent que ces femmes divaguent, même si Pierre et Jean courent au tombeau et constatent qu'il est bien vide. Mais l'une des femmes, Marie de Magdala, que Jésus avait délivré de cet esprit mauvais, dit le texte de Jean au chapitre 20, est restée au tombeau et se penche vers l'intérieur en pleurant. Deux anges, assis à la place où l'on avait mis Jésus, lui demandent « Pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis, sanglote Marie-Madeleine. » Au même moment, elle sent une présence dans son dos et se retourne. Elle voit un homme qu'elle prend pour le jardinier des lieux. « Qui cherches-tu ? » lui demande l'homme. « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre, » répond Marie. Alors Jésus l'appelle « Marie ». Marie relève la tête et toute vibrante d'émotion s'écrie « Rabouni ! » et s'élance vers lui, porté par sa joie. Il est vivant, son Seigneur est vivant. Rabouni est le diminutif de Rabbi, maître en hébreu, avec une nuance affectueuse. Comme la voix du maître à elle a dû être douce aux oreilles et au cœur de Marie. Elle lui doit sa vie. C'est lui qui l'a libérée de tout ce qui la détruisait, que j'en résume pudiquement par cet esprit mauvais. Seuls ceux qui ont connu la déchéance, voire frôlé la mort, peuvent ressentir les sentiments qui relient sauveteur et sauvé. Ensemble, ils ont frôlé l'irréparable. Le retour à la vie de son sauveur ne peut être pour Marie autre chose qu'explosion de joie. Ce n'est pas pour rien que Jésus est apparu à Marie en tout premier. Marie est une rescapée du malheur. Jésus a arraché sa vie au mal et l'a remise debout. Sur les chemins de Galilée, à Jérusalem, elle a repris confiance, s'est fortifiée au contact de Jésus, sous son regard aimant et ses encouragements. Et après sa mort, quel chagrin de ne même pas pouvoir honorer son corps, ni de savoir où il repose. Mais Jésus est obligé d'arrêter son élan, lui signifiant ainsi qu'on n'est plus dans la vie d'avant. « Cesse de t'accrocher à moi, lui dit-il, ou ne me touche pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Vous trouvez cela toujours dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Jésus lui signifie ainsi que le plan du salut doit se poursuivre. Il va remonter vers son Père et reprendre sa place de fils. Son esprit, qu'il a promis à ses disciples, va descendre sur eux. Ils deviendront à la Pentecôte les relais pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais avant de monter définitivement vers le Père, Jésus doit encore les conforter dans leur mission, leur assurer qu'il sera toujours avec eux à travers son esprit. Marie, comme les disciples, doit aborder une autre phase de sa vie avec le Christ Jésus. Ils doivent tous quitter la relation physique, pleine de reconnaissance et d'affection qu'ils ont tissée le long des chemins de Judée et de la Galilée. En cet instant, Jésus confie à Marie la mission d'annoncer aux disciples qu'il le retrouvera en Galilée. En effet, c'est près de la mer de Tibériade, alors que Pierre et six autres étaient repartis à la pêche, abandonnant tout projet de voir Jésus prendre le pouvoir en Israël, que Jésus va leur offrir un moment entre hommes. Ces hommes rudes n'ont rien pêché de la nuit, et sur l'invitation de Jésus, ils jettent leur filet à la droite du bateau. Une deuxième pêche miraculeuse a lieu. C'est le déclic pour Pierre, qui se jette à l'eau pour aller rejoindre celui qu'il reconnaît. C'est bien lui, c'est le Seigneur, il est bien ressuscité, les femmes avaient raison. Essayez d'imaginer, Jésus a préparé un feu au bord du lac, du poisson est en train de griller sur des pierres. Apportez quelques poissons, leur dit-il, et venez déjeuner. Les premières lueurs du jour éclairent doucement le ciel. L'eau du lac clapote aux pieds de Jésus et des disciples. Personne n'ose parler. Jésus partage le pain et les poissons à ces hommes harassés. Et tous se sentent réconfortés. Il est là, il est vivant, tout n'est pas fini. Il va aussi s'approcher du cœur de Pierre et trois fois lui demander « Pierre, m'aimes-tu ?» Comme celui-ci avait renié trois fois son maître, il va l'amener à lui dire trois fois « Oui, je t'aime », effaçant ainsi la honte et la douleur du cœur de Pierre. La relation de confiance et d'affection est réparée. Jésus confirme à Pierre qu'il l'a choisi pour être apôtre, c'est-à-dire envoyé pour continuer l'œuvre de prédication de la bonne nouvelle. Comme il a appelé Marie, et Pierre, Jésus nous appelle par notre nom. Il me connaît par mon nom, il te connaît par ton nom, et nous confirme ainsi, toi et moi, dans la personne transformée que nous devenons à son contact. Il nous met en marche, et désormais, il nous envoie dire la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne savent pas encore quel sauveur merveilleux il est.
C'était Clin d'œil de vie, une réflexion proposée par Simone.